premier invité des matins du samedi, un de nos plus grands comédiens, un fidèle serviteur du théâtre depuis 50 ans. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Weber. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, metteur en scène, comédien, ancien directeur de théâtre, écrivain également, puisque c'est notamment à partir d'un livre que nous vous avons invité aujourd'hui. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais juste un mot, Jacques Weber, des montagnes de Savoie, puisque je crois que vous descendez de vos montagnes. C'est un endroit que vous aimez, la montagne, pour vous ressourcer.
J'ai appris à l'aimer, parce qu'avant, j'étais très maigre et j'avais très peur d'être étouffé. Je me sentais étouffé en montagne. Or, maintenant, je me sens respirer. Va-t'en savoir pourquoi, c'est là, je sais pas. Non, il y a des amis de la montagne qui m'ont fait sentir ce que ça pouvait être. Je me souviens d'une exploration des sous-bois avec Marc Vera, par exemple, qui me montrait que
le chef cuisinier.
Sous-bois était d'une richesse inimaginable. Il y avait 150 sortes de plantes plus belles et plus juteuses les unes que les autres. C'est magnifique. Et puis non, il y a quelque chose de l'ordre du silence mouvementé, aéré, venteux, comme ça, avec les cloches des vaches et tout. Moi, ça m'émeut carrément. Les cloches des vaches, leur regard déjà me touche beaucoup. Alors, j'ai su, il n'y a pas tellement longtemps, que c'était un compliment chez les Grecs. Vous saviez ça?
Non, pas du tout.
Madame, vous avez déjà un regard de vache.
Ah bah dites donc. Il vaut mieux savoir que c'était un compliment, parce que sinon, je ne l'aurais pas pris comme tel.
Je l'aurais pas bien pris. Non, c'est vrai. Non, mais j'adore ça. C'est d'une douceur et d'une... En plus, je trouve que la marche, c'est quelque chose d'inouï pour penser, réfléchir, peut-être penser à ses rôles, penser tout court, enfin, quelque chose qui se remet en place.
Est-ce que ça repose votre voix aussi? Ce silence
forcément,
mouvementé.
Si on... c'est-à-dire comme ça repose un peu l'esprit, ça repose la voix forcément, parce que la voix c'est vraiment le mille fois plus que le regard, quelque chose qui ne peut pas mentir. La moindre émotion, la moindre fragilité se sent dans les inflexions quasiment imperceptibles de la voix. Quoi.
Vous me mettez de la pression hein, là.
Pour ça, ça va bien. Non, mais c'est très intéressant une voix. Je trouve ça magnifique.
Et en l'occurrence, reposer votre voix a été mise au repos forcé, Jacques Weber, pendant quelques mois, puisque nous avons tous été confinés. Alors vous avez pu parler au sein même de votre foyer, mais repos forcé d'une voix de théâtre, le théâtre vous a-t-il manqué pendant ces mois-là?
Oui et non. Oui, parce que moi, c'est vrai que c'est important pour moi, ça fait partie de ma santé, il faut que je m'exprime, il faut que je sois sur mon terrain. Mais en même temps, je ne veux pas en faire un problème. Je me dis que j'ai trop entendu des artistes se plaindre, grand bien leur face, mais je trouve que ce qu'il faut au contraire, c'est se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la possibilité d'un privilégié comme moi que d'être confiné? D'abord, j'ai le temps. Et le temps, c'est d'une richesse inouïe. Temps de lire, temps de rêver, temps de marcher, et le temps d'essayer de faire de la cuisine avec son épouse. C'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais bon. Non, mais c'est le temps du bien-être, le temps de penser. C'est un privilège que, hélas, n'avaient pas beaucoup de gens, mais que j'ai eu. Le temps aussi de, comme on s'était arrêté de travailler les trois pièces de Tchekhov que finalement on va reprendre le 23 septembre, c'était aussi le temps que le rôle mûrisse tout seul, sans que je le travaille, justement. Ça, on sait tous que ce type d'arrêt-là fait un bien fou au rôle. Donc c'était bien. À partir de là, j'ai fait aussi des petites expériences, comme beaucoup d'entre nous, avec les téléphones, les trucs et les machins. Alors je me suis amusé à faire des pastilles qui parlaient autour de... J'avais pris Cyrano, parce que je m'étais dit au moins c'est quelqu'un que tout le monde connaît pas mal et que moi en plus je connais pas mal non plus.
Plutôt pas mal.
Donc ça
oui.
Se posait. Voilà, c'était vraiment un pur amusement. Après, je me dis que il faut ne pas louper l'occasion de nous poser vraiment la question sur le plan économique, sur le plan de la structure, sur le plan de la représentation. Le théâtre a toujours été confronté à l'économie qu'il traversait à l'époque, qu'il questionnait. Donc, faut pas crier misère, faut tout de suite agir. Comme disait Hugo, j'adore cette expression. Aimer, c'est agir. Moi, j'aime le théâtre, donc j'agis. Donc, je sais pas, je vais trouver tous les moyens possibles pour que tout ça se fasse. Il se peut très bien qu'on soit devant des salles à moitié vides. L'important est de jouer de toute façon. Et puis après, faut se dire, mais est-ce que je dois toujours jouer dans ces mêmes salles? Est-ce que je dois pas aller dans d'autres lieux? Est-ce que je dois pas casser les conditions économiques extrêmement fastueuses dans lesquelles des gens comme moi sommes? Peut-être qu'il faut accepter d'être, pour parler clairement, d'être moins payé, de jouer devant 50 ou 100 personnes dans des lieux différents, mais plus vous, si vous remplacez trois représentations, parce qu'il y a personne, donc ça s'arrête par 30 où il y en a moins, mais où vous gagnez moins, mais finalement, vous gagnez autant. Enfin, je fais des comptes d'apothicaire, ce qui m'énerve un peu, mais il faut parler concrètement des choses. Il faut plus dire, il est temps d'aller jouer dans les écoles, comme disent certains responsables de notre État, mais pour ce qui veut rien dire, on n'a pas attendu. Mais il faut trouver des rechanges et des adaptations à quelque chose qui est en train de changer quand même très profondément. Moi, j'étais dans le train ce matin. quand vous pensez déjà que tout le monde est avec son portable ou son ordinateur, maintenant en plus il y a les masques, bientôt il y aura les gants, il y a eu les capotes il y a 20 ans, on va terminer en scaphandre. Alors ça, oui, ça me...
Ça vous oppresse, vous mettez les mains sur votre poitrine en parlant.
Oui, c'est vrai, oui, ça m'angoisse, oui, vraiment.
D'où le besoin de s'évader, parfois, dans
les
montagnes,
d'aller voir les vaches.
Aller voir les vaches, et effectivement, et marcher seul en montagne. Alors c'est la rentrée, malgré tout, Jacques Weber, c'est la reprise du théâtre, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, vous l'avez déjà évoqué. Vous avez évoqué les pastilles Cyrano que vous aviez commencé d'échafauder pendant le confinement. Cyrano qui vous a quand même collé à la peau un certain nombre d'années, avec grand bonheur, pour votre plus grand succès, pour certains déboires. En particulier, à un moment, il a fallu peut-être quitter Cyrano, le fuir, comme partir en montagne. Et une occasion vous a été présentée, nous sommes à la fin de l'année 83, début de l'année 84, en plein moment où vous jouez et où vous triomphez au Théâtre Mogador à Paris avec Cyrano, vous recevez un coup de fil. Ça tombe assez bien puisque vous venez de perdre votre voix, vous avez un problème avec votre voix à ce moment-là, peut-être un problème qui vous dépasse, qui dépasse ce rôle-là symboliquement. Un coup de fil qui vient du Liban et qui vous invite à partir au Liban, à Beyrouth, on est en pleine guerre civile, pour tourner, pour jouer le rôle d'un intellectuel libanais dans un film qui s'appellera « Une vie suspendue », réalisation Jocelyn Saab.
Bonjour, Shabib.
Ahla, ahla.
Ahla.
معهل كمان اهلا
بشرفي انت اول واحد بشوفه بيطلع من المقبره ومعه زهور
هي ليش لا شو فيها هني بجيبون وهو بيرجعون
بدك المزبوط عنده شي يعطيه واللي مات ايش انا
Une scène avec vous, Jacques Weber.
Ça me touche beaucoup, j'ai pas réentendu depuis 84.
La scène d'ouverture de ce film Une vie suspendue, vous sortez du cimetière. Et vous avez des fleurs et dans la rue, des hommes en armes vous accueillent autour d'une sorte de petit brasero, vous proposent un café et s'étonnent que vous ayez des fleurs dans la main.
Oui, d'ailleurs, je trouve ça que ce que vous racontez là correspond parfaitement à ce que je... C'est une image parfaite de mon souvenir, c'est-à-dire ce mélange entre la douceur, la poésie la plus douce, la plus tendre et puis l'horreur absolue. Car ces gens armés sont des gamins, par exemple, moi, quand j'y suis allé. Et ce qu'il faut savoir, hélas, c'est que maintenant, tous les Béroutins, quels qu'ils soient, vous disent que le malheur est beaucoup plus grand maintenant, puisqu'ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus de produits de pharmacie, ils n'ont plus rien. Et puis ça, comme l'a dit d'ailleurs notre président, qui là, pour une fois, était pas trop mal, quand il a dit « ça tourne en rond, vous avez une réflexion circulaire, vous ne vous en sortez pas ». Le problème, c'est qu'il l'a dit aussi aux politiques, c'est-à-dire c'était sa fonction. Aux mafieux politiques du Liban. Enfin bref, ça c'est une compétence que je n'ai pas, je peux guère aller plus loin. Je demande simplement aux gens de lire les articles de gens comme Dominique Aidé dans Le Monde, donc on comprend tout ça beaucoup mieux. Pour ce qui me concerne, si j'ai écrit ce livre, c'est que...
Oui, parce que tout ça a donné lieu à un livre, je ne l'ai pas encore cité, mais Paris-Beyrouth, c'est le récit de ce tournage, de ce voyage au Liban.
Et c'est vrai que pour moi l'occasion était donnée de me dénombriliser, parce qu'il y a un moment, la voix c'est ni plus ni moins problème entre soi et soi, c'est pas autre chose. Il y a quelque chose qui se rompt dans l'esprit, dans le corps, et la voix en est le témoin. Alors, à partir de là, j'ai dit, tiens, mais je vais aller à la découverte. Et en plus, je savais que c'était un pays très touché par le malheur, puisque Sabra et Chatila, c'était à tête quelques mois, la guerre des grands hôtels, ce qu'on appelait la guerre des grands hôtels. Mais on m'a dit, non, rassure-toi, c'est la fin de la guerre. Et là, on part sur un malentendu. Et c'est sans doute ce malentendu et ces contradictions permanentes qui m'ont intéressé à essayer de raconter. C'est que rien n'est ni blanc ni noir, ça faut arrêter de penser comme ça. Et d'un seul coup, je suis parti là-bas et je suis tombé dans la longue fin silencieuse, insinueuse d'une guerre, et non pas dans la guerre proprement parlée. Toujours est-il que vous arrivez là-bas, il y a le grand large qui est magnifique, il y a ces fleurs qui sont magnifiques, il y a les cafés qu'on vous sert, des hommes qui, voyant des étrangers qui n'ont pas vu depuis des années, vous amènent des fruits mûrs comme ça, yalla, yalla, comme ça. Et puis, à côté de ça, des chantiers... Des immeubles démolis totalement, des gens qui vivent sans la paroi frontale, comme ça, il y a les lits, on les voit de voilà. Des trucs absolument effrayants, j'arrive, il y avait un premier cadavre entre deux taxis, on me dit non mais ça c'est pas la guerre, c'est un règlement de compte, c'est pas grave. Donc c'est ce mélange en permanence qui est là, Et là, je me rends compte que je vais avoir peur et je connais la vraie peur, non pas celle que je joue. J'ai une inexpérience absolue de la peur concrète et de la mort concrète quand je joue. Et là, je me pose des problèmes sur mon métier. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métier qui parle de grandes choses? Je vais jouer le roi Lear. Alors, je connais un peu plus le problème du monsieur qui vieillit, qui a des chances de devenir un peu débile. Bon, enfin, c'est un peu schématique et simplificateur par rapport au roi Lear. Mais c'est réellement quelque chose qui m'a troublé, c'est une fois de plus, comme le grand théâtre, le malheur, c'est concret. C'est-à-dire que moi, ça a été un obus qui n'a pas éclaté, c'est une chance sur mille, donc là, c'était pas du malheur, c'était du bonheur. C'est un enfant de 15 ans qui met un pistolet sur votre tempe, j'entends le déclic, et je me dis, je vais avoir le cerveau éclaté comme Kennedy sur Dallas. Je vois ma femme avec la Kalachnikov sur la poitrine, et je me dis, ça y est, on est foutu. Et c'est qu'est-ce qui se passe? C'est cette femme qui m'a menti, élégamment menti pour faire son film, qui se fout devant nous. Mais je m'en rends pas compte au début. J'en veux à mort. J'en veux à mort de m'avoir fait risquer ma vie alors que j'ai un enfant d'un an et demi à Paris. Mais c'est elle qui se met devant nous avec son ami et qui gueule plus fort que des enfants. Je me dis, mais si elle gueule aussi fort, on va mourir. Et non, on meurt pas, c'était ce qu'il fallait faire. Enfin bref, et tout ça, mais je me dis, mais là, je suis dans une réalité, dans quelque chose de concret, ni dans le romanesque, ni non, c'est la vie. C'est aussi ça, la vie. Et le fait que la guerre vous renvoie, ou encore une fois, cette guerre allusive, comme ça, vous renvoie à ce que, au plus fort que tout, vers la vie, c'est quelque chose qui me surprend énormément.
Et c'est ça que vous écrivez.
C'est ça que j'écris. C'est la redécouverte d'un amour fou entre ma femme et moi, la redécouverte du désir, la découverte de l'érotisme et de la sexualité qui naît du danger, qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver dans un corps que l'on aime. Excusez-moi, mais on bande très fort quand il y a la guerre. Et c'est horrible à dire, mais je tiens à le dire parce que je tiens à être honnête devant ma médiocrité. C'est que quand je suis revenu à Beyrouth en paix, j'y ai rejoué quelques années après, c'était un court moment de paix, puisque 13, ça a répété tout de suite après. Eh ben, j'étais presque, je suis même gêné de le dire, déçu. Il y avait moins la vie, il y avait toujours ce charme, cette lenteur très douce qu'il y a dans l'accent des Beyrouthins, il y avait tout ça qui était, c'est toujours très lent, très, yalla, comme ça, avec ce mot qui chante. Mais il se passait, c'était reconstruit avec tous ces espèces de promoteurs, les marchands de carreaux avaient été ceux qui s'étaient enrichis comme des malades. Et j'étais déçu par la paix, mais une paix qui frelâtrait. C'est triste, mais c'est vrai, c'est la vérité que j'ai ressentie.
Jacques Weber, vous dites, vous teniez à le dire. Pourquoi teniez-vous tant à écrire ça aujourd'hui, donc presque 35 ans après les faits?
Bah d'abord parce que j'ai vieilli, donc je suis peut-être un petit peu moins schématique, enfin, j'espère, quoique. Mais je suis encore plus révolté maintenant. Et puis surtout, j'avais tout simplement envie de dire que, décidément, enfin c'est idiot ce que je veux dire, mais les choses sont très compliquées, très mélangées. J'avais envie d'essayer d'expliquer à quel point c'est quand même curieux chez l'être humain qu'il ait besoin de la guerre pour lui rappeler que la vie est forte et belle, quoi. Ça m'a... Et peut-être que finalement, on se fout dans ces espèces d'impasses épouvantables pour retrouver le goût forcené de la vie que l'on perd là, seconde par seconde, dans notre quotidien qui s'est mis en place pendant ce 20e siècle.
Ce que vous écrivez, c'est la peur constante, mais c'est aussi la colère. On entend, on lit votre colère. La colère d'être là où vous ne devriez pas être, finalement.
Tout à fait, oui.
Mais on entend une colère plus profonde encore contre peut-être cet état de fait qui vous a mis au milieu, mais qui est moins lié à vous et à cette présence que finalement au pays où vous êtes, où vous ne comprenez pas qu'il se passe autant d'horreurs dans ce pays.
Oui, parce que j'ai la sensation très... Quand je suis arrivé là-bas, je dis, mais c'est effrayant. Je pensais avoir un peu pigé ce que pouvait être le Liban, mais j'étais un abruti. Enfin, et les gens en ce moment disent tout et n'importe quoi. Enfin, et puis j'ai envie de dire, merde, arrêtez de causer si vous n'avez pas été sous les débris, sous les bombes, à marcher sur le verpilé, à marcher à côté d'un enfant mort, d'un chien crevé, des gens qui crèvent la dalle, d'un obus qui pète, l'autre qui pète pas, etc. Vous n'avez qu'un droit, c'est de fermer votre gueule, quoi. Puis d'étudier, peut-être, étudier très profondément, étudier très fort avant d'oser parler. Et j'avais envie de dire ça. Je ne supporte plus les gens qui parlent. Non, mais je veux dire, cette parlotte permanente, nous sommes, elle l'a dit merveilleusement Dominique Aidé, je reviens là-dessus, mais on n'est plus parisiens, français, habitants sur Rennes ou machin, on est des terriens. Moi, j'étais un étranger à Beyrouth et ça me faisait très bizarre de rester.
C'est d'ailleurs un étranger qui écrit,
malgré
hein.
Tout, c'est un étranger qui
écrit. C'est vraiment le regard d'un étranger.
Voilà,
d'un homme qui sort de son confort, de sa vie parisienne et
qui est là, homme comme ça. Et on se rend compte très vite que le malheur de l'un, c'est notre malheur aussi. Il y a un moment donné où la seule chance utopique, certes, mais la seule chance qui nous est offerte, c'est de redevenir fraternel et pour la paix. Il faut qu'il y ait la paix au Liban.
Parce que vous disiez tout à l'heure, il faut arrêter de dire il faut.
Mais non, mais
c'est ça, il faut alors, la paix au Liban.
Non, mais l'action, alors l'action, attention, arrêtons, c'est comme pour le théâtre. Alors on dit, il faut qu'il nous file plus de pognon, il faut ceci, il faut cela. Arrêtons de tirer les sonnettes de l'État. L'État fait, non pas ce qu'il peut, mais ce qu'il veut, pour l'instant, mais il y a un moment, il ne pourra plus faire ce qu'il voudra. Pourquoi? Parce que chaque personne, individuellement, en dehors des schémas politiques auxquels elle est là, s'il ne croit plus. Il y a une immaturité, mais qui peut-être s'est mise en place politique. Moi, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. On était beaucoup plus encadrés, on était beaucoup plus structurés, on avait des points de repère idéologiques. On était communiste, on l'était pas, mais c'était du solide. Et on allait manifester pour les autres, on allait manifester pour le Vietnam. Plus ça maintenant, mais peut-être qu'après
si,
tout...
Si, le climat, l'égalité entre les femmes et les hommes,
voilà. Mais l'égalité entre les noirs et les blancs... Ne sectorisons pas les problèmes. Le climat, c'est éminemment lié à une réflexion beaucoup plus globale qui est de l'ordre du politique et de l'économique. C'est pas avec cette économie-là qu'on résoudra les problèmes du climat, c'est impossible. C'est pas en disant, voleur, tu voles plus, et sinon je te fous une amende, qu'on va y arriver. C'est pas possible, ça ne veut rien dire. Les taxes carbone, tout ça, c'est du pipeau. C'est individuellement qu'on doit maintenant, oui, descendre dans la rue. Je le crois vraiment avec mes 71 printemps. J'invite.
Tout récent.
Et je suis à descendre dans la rue. Non, mais c'est vrai, je crois que faut vraiment, je pense vraiment ça.
Est-ce que vous êtes resté indéfectiblement lié à ce pays, qui est le Liban?
Oui, je suis amoureux de ce pays, mais vraiment sans emphase et sans grands mots, sans bien le connaître. Mais après tout, on tombe amoureux de gens qu'on ne connaît pas du tout au départ. Bon, vous croyez au
coup de foudre. Vous savez ce que disent les Libanais entre eux. Ils disent, si vous prétendez avoir compris le Liban, c'est qu'on a du mal à vous expliquer.
On a du mal, vous, c'est magnifique. Ou alors, cette belle histoire, croyez-vous au coup de foudre? Non, alors vous me permettrez de rester encore un peu. Donc voilà, c'est magnifique. Et moi, c'est vrai que j'ai eu le coup de foudre pour ce pays, et puis j'ai eu le coup de foudre pour des gens.
Pour des gens,
pour leur...
Ils sont très présents dans Paris-Beyrouth.
D'être, leur élégance, et je sais pas, il y a quelque chose d'ancestral, des ports, la mer, le large, la Phénicie, il y a tout ça qui est derrière, c'est très très étonnant.
Jacques Weber, vous dites à un moment de votre ouvrage, au final, Cyrano, avec son succès et ses abîmes, ce tournage avec son désir fou de vivre et son audace illégitime sont les arborescences d'un même tronc. Que voulez-vous dire?
Oui, mais je crois que ce tronc, ben on peut tout bêtement dire que c'est la survie ou la vie, tout simplement. Enfin, je crois que c'est ça. Et que la vie, c'est sans arrêt contradictoire, complexe, inattendu, accidentel. Ça ne s'arrête jamais, c'est toujours en mouvement. La vie, c'est le mouvement, en fait. C'est comme l'univers, hein. C'est sans arrêt en expansion. Enfin, c'est une des théories qui tient le mieux le coup, pour l'instant. Ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas de bouger. La certitude, c'est le début de la sottise, quoi. Et je pense que ce mélange que j'ai connu donc entre Cyrano, ce héros patenté, définitif, alors même qu'il ne l'est pas du tout. J'aime beaucoup, on m'a rappelé la définition de Depardieu, il dit c'est un voyou qui sait dire je t'aime. Je trouvais ça assez formidable, car oui, c'est un provocateur, oui, c'est un brigand, c'est un vrai voyou. Puis c'est un voyou même dans tous les sens du terme. Quand on pense qu'il propose ce pacte faustien, c'est complètement contradictoire. C'est un être dont on peut parler en termes abominables, on peut dire que c'est un type effrayant. Il parle de que de sa pomme. C'est alors les féministes, ça pourrait gueuler. Pendant le cinquième acte, il n'arrête pas de parler de son malheur à lui. Il a devant lui la femme à qui il a fait le plus de mal au monde. Il parle que de lui. Regardez, il parle que de lui. Non, j'exagère, je provoque exprès, mais pour dire que tout ça n'est pas donné, n'est pas évident, n'est pas certifié, n'est pas définitif. Même le plus grand, le héros que le connaissent soi-disant le mieux les Français, ben non. Ça part. Le langage des arbres, puisque je parlais d'arborescence, nous est absolument... Ça y est, c'est une des grandes découvertes de notre époque. On commence à piger enfin qu'il se pourrait bien que les fleurs, les arbres aient un langage et que les animaux ont quand même une intelligence, c'est-à-dire une faculté d'adaptation absolument prodigieuse, parfois bien supérieure à la nôtre. Voilà.
Jacques Weber, sans vouloir être sotte, une chose dont je suis certaine, c'est qu'il va falloir qu'on fasse une petite pause de quelques minutes pour laisser passer le rappel.
Je sais pas où vous alliez avec votre histoire.
C'est par rapport à votre expression de tout à l'heure. Il est 7h30 sur France Culture. Jacques Weber est notre invité ce matin. Jacques Weber qui a plusieurs actualités en ce moment, comme toujours. La première actualité du moment, c'est le livre Paris-Beyrouth qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi, dont nous avons parlé en première partie de cet entretien. La deuxième, c'est une actualité théâtrale, en tous les cas, on l'espère. Vous allez vous apprêter à jouer trois farces de Tchekhov dans une mise en scène de Peter Stein, une pièce qui devait être montée au printemps, tout était prêt. Les répétitions avaient eu lieu et puis tout a été arrêté brutalement. Ça doit faire un peu bizarre quand même de reprendre les choses là où elles ont été
laissées. Oui, mais alors en même temps, on sait tellement tous acteurs que lorsque l'on s'arrête après un nombre conséquent de répétitions et qu'on reprend plus tard, le rôle travaille de lui-même et ça fait un bien fou. Et je pense, d'après mes petites balades en montagne,
vous allez être encore meilleur que vous ne l'auriez été.
Elles étaient très contentes quand je jouais, parce que en montagne, on s'explose. Moi, je me jouais le texte plein poumon parfois, et ça va pas mal.
Ça sera tonitruant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces trois pièces? Les méfaits du tabac, le chant du cygne et la demande en mariage. Vous jouez trois personnages très différents,
mais j'y suis allé, comme un fou, parce que c'est Peter Stein qui met en scène. Peter Stein, là, bon, on le sait, c'est un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle, sans doute même le plus grand avec Streller, qui a influencé Planchon, Chéreau et tant d'autres, créateur de la Chaubune, et ses plus grands succès, tels la dispute de Chéreau ou le Tartuffe de Planchon, c'est Tchekhov, c'est Oncle Vania, c'est tout ça. Et donc, quand à un moment, j'aime tellement travailler avec lui, j'ai fait Beckett, j'ai fait La Biche, j'ai fait Tartuffe.
Vous avez un long compagnonnage avec
Tartuffe. J'adore cet homme, c'est un maître, pour moi c'est mon maître, enfin. Et j'ai dit, mais tiens, pourquoi on ferait pas des petits Tchekhov? Parce que ces petits Tchekhov, comme on dit, sont pas des petits, sont des petits bijoux, c'est des petits chefs-d'œuvre. Simplement, ils ont été un peu, pas massacrés, mais disons, surutilisés dans les cours d'art dramatique, où tout le monde faisait le numéro des méfaits du tabac, donc un homme qui n'arrête pas de se plaindre de sa femme, alors qu'il devrait parler du tabac, mais parce que sa femme lui a imposé ce sujet de conférence, et on voit une fois de plus, toujours ce qui se passe chez Tchekhov, c'est-à-dire que, comme on dit, il ne s'y passe rien, mais dans chaque phrase, il se passe un milliard de choses, quoi. Et Tchekhov est le spécialiste de la phrase qui commence par le sourire et qui finit par les larmes, sans pour cela que ça gicle des yeux, mais enfin bon, c'est ça. Et dans le chant du cygne, qui est tiré d'une petite nouvelle, Calcas, c'est un homme qui s'est endormi, qui jouait Calcas, que visiblement, qui dit qu'il a été un immense acteur, mais visiblement non, c'était un pâle acteur qui a travaillé, qui a vécu de son métier pendant des années et des années, qui a fait son jubilé, c'est-à-dire au revoir, adieu, c'est mon dernier soir. Et il se réveille, il a bu toute la nuit, il était ivre mort pendant son jubilé, et il se réveille dans un théâtre vide, et c'est le chant du cygne, il va mourir, c'est évident. Et ça m'a rappelé beaucoup la dernière bande de Beckett que Stein avait mise en scène. Et il y a là-dedans, surtout avec Stein comme accompagnateur, comme directeur d'acteur, une humanité mais inimaginable. Et elle aussi, justement, c'est ça que j'aime beaucoup, totalement contradictoire à tout moment, à tout instant. Très souvent, les personnages de Tchekhov disent quelque chose et il faut vraiment entendre le contraire, quoi. C'est sans doute un des auteurs, d'ailleurs, il invente totalement le théâtre contemporain. Enfin, d'ailleurs, il est mal reçu au début, Enfin, c'est très nuancé. Il y a des insuccès notoires, et puis il y a d'autres moments où il y a un triomphe qui est accepté, mais au bout d'un long moment. Et lui-même était très contradictoire sur le théâtre. Parfois, il en a marre, ça l'emmerde, je trouve pas ça intéressant du tout. Mais ce que je trouve formidable chez Tchekhov, c'est qu'il faut jamais oublier que c'est un médecin, mais un médecin de campagne, un vrai. Puis il a écrit un livre, L'île de Sakhaline, je crois, c'est où il va lui-même sur un terrain donc de forçat, et où toute une vie s'est mise en place à partir de ces forçats. Et c'est un monde horrible, épouvantable, mais hautement symbolique par rapport à tout ce qu'il pouvait ressentir. Et il y va de lui-même et il écrit un bouquin absolument inouï et qui est très éclairant sur son humanité, sur son désarroi entre une nostalgie un peu tolstoïenne, si vous voulez, et puis ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on n'est pas loin de la révolution explose, quoi.
Et pourquoi vous dites que c'est très important de ne pas oublier qu'il était médecin?
Parce que un médecin, il parle du corps. Or, je trouve que très souvent, en France, l'acteur français parle trop de la tête. et que ce qui est très beau dans le théâtre, c'est cette même pas cet accompagnement, mais cette fusion, cette osmose entre le corps et la tête. La pensée est corps au théâtre. Le corps pense et le cerveau sue. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, moi, me plaît énormément.
Et cette pensée-là, Jacques Weber, vous aide à appréhender un rôle qui, manifestement, vous fait assez peur, qui sera le suivant, qui est le Roi Lear de Shakespeare dans une mise en scène de Georges Lavaudan. Ça, c'est pour janvier. On espère, en tout cas.
Vous me présentiez le gars à qui ça ferait pas peur. Alors là, il serait un peu con, hein. Je suis terrorisé, mais ça a été toute ma vie que souvent comme ça, sur des grands rôles, on est tellement minus. Toujours, on s'attaque à des Everest quand on joue des rôles comme ça, que ça soit Alceste ou et le Roi Lear, n'en parlons pas. Moi, c'est le rêve, à mon avis, ça doit être le rêve comme Phèdre pour une femme d'un acteur de jouer un jour le Roi Lear. Mais quand on arrive devant ça, on a beau se dire bon, je pense que ça y est, j'ai l'âge, j'ai la maturité, j'ai un petit peu l'expérience de tout ça, et malgré tout, on se retrouve nain quoi devant le géant quoi, mais nain. La poésie fulgurante de chaque instant, chaque phrase, la philosophie qui peut se développer, mais comme ça, au détour d'une réplique, mais pas forcément celle du Roi Lear d'ailleurs, dans cette pièce extrêmement compliquée, enchevêtrée, mal foutue, où vraiment le public peut s'emmerder, c'est pas grave. Et espérons que non, mais ça fait partie aussi du théâtre, d'avoir des moments peut-être d'ennui et des moments qu'on privilégie selon les gens. Mais le Roi Lear, je pense que c'est le summum du patriarche qui s'écroule. Et je trouve que symboliquement, à l'heure actuelle, ça dit quelque chose aussi, le patriarcat qui doit mourir, qui devient fou. C'est tellement abrupt ce qu'il fait à sa fille, la première scène, à Cordélia. C'est inexplicable, ça ne tient pas la route. Il dit à ses trois filles, allez, dites-moi, parlez-moi, que comment je vais diviser mon royaume, etc. Et il y en a une qui dit, les autres, donc ils font des superlatifs absolument inimaginables. Il y en a une qui dit, j'ai rien à vous dire, je vous aime, et puis c'est tout, mais j'aime aussi un mari, j'aime... Rien ne peut venir de rien, enfin, c'est pas possible. Et il devient fou. Il devient fou parce que le mensonge ne se fait plus. Ça me passionne beaucoup. Au théâtre, mettre en route le fait que quelqu'un devient fou parce que le mensonge ne se fait plus, ne se pratique pas. On devient fou parce qu'on est face à la pureté absolue. Et en plus, c'est celle qu'il aimait le plus au monde, elle. Ça, c'est bouleversant. Et puis l'âge qu'il...
Alors là, je sais pas comment le traduire en mots, mais les auditrices et les auditeurs.
On parlait de Gaulle, et c'est vrai que ce naufrage peut s'apparenter à une forme de folie, ce qui est parfois le cas quand les neurones commencent à disparaître. C'est marrant parce que l'âge peut être sagesse et sérénité. Et en même temps, ça peut être folie, quelque chose qui déraille complètement, qui s'en va, qui s'échappe, comme le corps. Ce qui est bouleversant, c'est d'entendre des hommes d'âge comme Edgar Morin ou comme Badinter, des gens comme ça. Moi, je suis bouleversé quand je les entends. Le cerveau est en plénitude, il est immense, il prend tout le corps et dit « Toi, tu peux crever, je m'occupe du reste. » Il y a quelque chose. C'est l'âme seule qui se met à vivre. Mais faut-il encore avoir la force d'accepter ça, la disparition de son propre corps, voyez. Tout ça me passionne beaucoup. Je complique peut-être un peu les choses, non?
Pas du tout, mais j'ai envie de vous demander s'il y a un lien entre tout ce que vous dites là et votre choix musical, Jacques Weber.
Ah bah totalement, puisque j'ai choisi... Et moi, je suis très simple, hein. Je suis très très carré. Il y a des chanteurs, première phrase, j'ai les poils des bras qui se lèvent, c'est Piaf Barbara. Il y a un acteur qui je pense, sans aucune espèce d'hésitation, est un des plus grands acteurs au monde. Pour moi, c'est énorme. Il y a lui et les autres, c'est Depardieu. Et quand Depardieu chante avec la délicatesse d'une jeune fille, Barbara, je sais pas, je suis dans un état d'émotion absolument immense. Et là, c'est vraiment de l'art pur, c'est du génie pur. Et je trouve que ça, c'est important. Que oui, ces spectacles-là existent, ça, oui, c'est important.
Merci. Et c'est pas si bas bol choy. Je suis bas. Non. Non. Toi que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards. Et si l'on s'était trouvé, qu'il ne soit pas trop tard. Pour le temps qu'il me reste à vivre, je stopperai mon piano. Pour pouvoir vivre avec toi, sur ton îlot mimosa, et comme deux chevaux courant dans la prairie, comme deux oiseaux volant vers l'infini, et comme deux ruisseaux cherchant le même lit, nous irions dans le temps droit comme des roseaux, quand sous le poids des ans nous courberions le dos. Ce serait pour mieux boire ensemble à la même eau.
Un immense merci, Jacques Weber.
Ben, merci à vous, c'est beau, c'est sublime.
C'est magnifique. Trois farces mises en scène de Peter Stein, c'est au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et Paris-Beyrouth, c'est votre livre édité au Cherche Midi. Bonne rentrée.
Ben, à vous aussi. Merci beaucoup. Pour le temps
qu'il me reste à vivre, peux-tu stopper ta vie pour pouvoir vivre avec moi sur ton île au Mimosa. Nous aurions la fierté des tours de cathédrale, et nous serions plus près du ciel et des étoiles. Nous saurions le secret des aurores boréales.
Et il est 7h45 sur France Culture.